Enregistré en concert en 1967, l'adagio de la symphonie Asraël de Josef Suk. Jusqu'ici, dans mon récit de la vie de Karel Anschel, j'ai annoncé les titres des œuvres sans trop m'étendre sur les orchestres. C'est le moment de vous dire que 8 extraits sur 10 étaient joués par la Philharmonie tchèque, l'orchestre dont Anschel prend donc la direction en 1950. Il le connaissait déjà un peu, déjà parce qu'il avait été l'élève de Václav Talich, qui était le directeur musical emblématique de l'orchestre avant-guerre. Et puis, quand il se destinait encore à la composition, Anschel avait eu l'occasion de diriger une de ses œuvres à la tête de la Philharmonie tchèque pour son examen. Et puis ensuite, il y avait eu des invitations dans les années 30. Mais cette fois, il devient le chef attitré. C'est le violoniste David Oistrakh qui l'a recommandé aux autorités communistes lors d'un dîner de gala après un concert. Mais Anschel aurait très bien pu ne jamais savoir qu'il avait obtenu le poste, car il avait rangé dans sa poche l'enveloppe qu'on lui avait remise pendant une répétition à la radio. C'est sa femme qui l'a retrouvée en portant le veston chez le teinturier. C'était la lettre du ministère de la Culture l'informant de sa nomination. Alors, au début, il doit bien faire quelques concessions et jouer des musiques de propagande comme la cantate « Construis ton pays pour renforcer la paix » d'un certain Václav Dobiash, mais assez vite, il impose son exigence artistique, par exemple en programmant les magnifiques fresques de Piero della Francesca de Bohuslav Martinu.
Thank you.
On ne joue pas assez, Martinou. C'était le premier mouvement des sublimes fresques de Piero della Francesca par Karel Anscher et la Philharmonie tchèque. Quand Anscher est nommé directeur musical de l'orchestre en 1950, le poste était vacant depuis le départ de Raphaël Kubelik, qui avait préféré l'exil en 48 à l'arrivée des communistes. On avait envisagé un temps de faire revenir son maître, Talisch, qui avait incarné l'orchestre avant-guerre, mais on lui reprochait sa complaisance avec l'occupant. Anscher reste directeur musical de 1950 à 68. Pour moi, ce sont clairement les meilleures années de cet orchestre. Les débuts ne sont pas faciles, car Anscher doit s'imposer contre la volonté des musiciens qui n'ont pas été consultés. Il travaille d'arrache-pied, il fait répéter l'orchestre pupitre par pupitre. Alors, il cultive la musique tchèque, bien sûr, Smetana, Dvořák, Souk, Janáček, Martinů, mais aussi les autres, notamment les modernes de l'époque, Stravinsky, Bartok, Prokofiev, avec toujours une direction limpide, vous l'avez entendu, assez tranchante, beaucoup de vigueur rythmique, un sens analytique aussi, très moderne. Il s'appuie sur les couleurs crues, très typées des instruments de la philharmonie tchèque de l'époque. Disons que c'est une approche très directe de la musique, sans pathos, sans boursouflure, un tempo droit, mais pas raide, d'autant qu'il sait chanter ou danser quand il le faut. Alors, ajoutez son perfectionnisme, touillez, et vous obtenez un des plus grands interprètes du Sacre du Printemps. Ce sacre implacable qui met à nu les arêtes vives de la musique, c'est celui de Karel Anscher, enregistré en 1963. Tiens, c'est la même année qu'un certain Pierre Boulez. Lorsque l'Occident découvre ses enregistrements pour l'éditeur national tchèque, Supraphone, c'est une révélation car on ne le connaissait pas. Rideau de fer oblige. J'ai beaucoup insisté sur la place prépondérante du XXe siècle dans le répertoire d'Anscher. N'allez pas croire pour autant qu'il ne dirigeait pas les classiques. C'était un grand brahmsien et Beethoven était souvent au programme. Quant au soliste, il a collaboré avec les plus grands, bien sûr en priorité ceux du grand frère soviétique, guerre froide oblige, mais quand ce sont David Oistrakh ou Richter, il y a pire. Mais ses plus grandes complicités, il les a eues avec ses compatriotes tchèques, comme les pianistes Jan Panenka et Josef Palenicek, les violoncellistes Josef Chouchro et Miloš Sadlo, et surtout son partenaire le plus régulier, Josef Souk, petit-fils du compositeur et donc arrière-petit-fils de Dvorak. Alors quand, le 24 octobre de cette très bonne année 1964, Anscher dirige le triple concerto de Beethoven avec Panenka, Souk et Chouchro, on a le gratin de la vie musicale tchèque.
Thank you.
Jan Panenka, Josef Suk, Josef Chouchereau et Karel Anscherl à la tête de la Philharmonie tchèque en public et en concert dans ce triple concerto de Beethoven. En essayant de vous décrire le répertoire et le style d'Anscherl, il y a un nom de compositeur qui s'imposait presque. Vous allez vous moquer de moi, c'est Gustav Mahler bien sûr, car Anscherl fait partie de ceux qui ont œuvré pour remettre au répertoire ce compositeur négligé à l'époque et dont il ne faut pas oublier qu'il était né en Bohême. Et puis je vous rappelle qu'Anscherl a quand même eu la révélation de la direction d'orchestre en dirigeant la musique de coulisses pour Bruno Walter dans la deuxième de Mahler. Alors, il n'a pas dirigé toutes ses symphonies, loin de là, mais les témoignages que l'on a montrent une compréhension intime de cet univers. Et en plus, quand on connaît les tragédies indicibles auxquelles Anscherl a été confronté, on n'est pas surpris qu'il ait tout compris de la noirceur de la 9e symphonie de Mahler. Une des versions les plus âpres et tranchantes de la 9e de Mahler, celle de Karel Hanschel avec la Philharmonie tchèque en 1966, soit 2 ans avant la fin prématurée de cette collaboration exemplaire grâce au recrutement de musiciens exceptionnels comme Geza Novak, flûte solo, Jerzy Mihule, hautbois solo, Miroslav Štefek, cor solo, exemplaire aussi grâce à la révolution du disque longue durée, le 33 tours, qui fait monter l'exigence technique. Et puis je vous rappelle qu'Hanschel avait été ingénieur du son. Côté tournée, ce sont surtout les pays du pacte de Varsovie dans un premier temps. Il faudra attendre un peu pour l'Occident car c'est la guerre froide, du moins jusqu'en 1959. Et là, on va jusqu'en Nouvelle-Zélande, avec de la musique tchèque bien sûr. des musiciens tchèques dans leur musique, mais enregistré aux Antipodes à Wellington, Nouvelle-Zélande, le 21 septembre 1959. C'était la Danse Slave opus 72, numéro 2 de Dvorak par la Philharmonie tchèque en tournée sous la direction de Karel Hanschel, un homme tout mince et même maigre, élégant et courtois, presque timide, sauf quand il s'agissait de défendre son idéal d'exigence artistique, même d'éthique artistique, au service des compositeurs. J'ai beaucoup insisté sur le haut niveau de ce mandat d'Hanschel à Prague, mais j'ai aussi plusieurs fois fait allusion au fait qu'il avait duré 18 ans. Pourquoi seulement 18 ans? Eh bien, une fois de plus, c'est l'histoire avec sa grande hache, comme disait Georges Perec, qui s'invite. En 1968, les chars soviétiques entrent dans Prague. Le socialisme à visage humain du réformateur Dubček n'aura pas duré longtemps. Les manifestations sont sévèrement réprimées, entraînant une vague d'émigration. Hanschel, qui, comme vous le savez, a connu la dictature nazie, n'est pas prêt à vivre une autre tyrannie. Il quitte le pays en 1968. Dans une lettre, il écrit à la direction de la Philharmonie tchèque « Je ne souhaite pas revivre les années 1939-45 et je n'aurai pas en moi la force de le faire. »
Thank you.
Avant de quitter sa patrie, Hanscherl avait eu le temps de faire à Prague beaucoup de créations, mais aussi de premières auditions locales, comme celle du War Requiem, le Requiem de guerre de Britain, œuvre qui lui parlait plus que n'importe quelle autre, et c'est ce que vous écoutiez à l'instant dans un concert de 1966. Il obtient le statut de réfugié politique au Canada, où on lui offre la direction musicale de l'Orchestre symphonique de Toronto, dont la réputation est plutôt modeste à l'époque. Cet orchestre a eu bien de la chance de bénéficier d'un des plus grands chefs du monde. L'anomalie, c'est que Hanscherl reste globalement ignoré des grands centres musicaux, alors que des postes sont vacants à Cleveland, Chicago, Boston, New York, sans parler de l'Orchestre de Paris, tout récemment endeuillé par la mort soudaine de son fondateur, Charles Munch. Alors figurez-vous qu'on a mentionné le nom d'Hanscherl à l'époque, sauf qu'au ministère de la Culture, on a répondu qui ça, Hanscherl, connaît pas. Et on a préféré le nom de Karajan, grand nom, mais qui n'est resté que deux petites saisons, car il n'avait pas assez de temps à consacrer à Paris. Quelle occasion manquée. Hanscherl connaissait déjà l'orchestre de Toronto, qu'il avait invité en 1966 à la suite de la première tournée américaine de la Philharmonie tchèque, et le chef était très reconnaissant envers le pays qui lui avait accordé l'asile. La symphonie pastorale que je vous ai passée au tout début de ce parcours avait été enregistré à Toronto. Là-bas, il donne aussi, par exemple, cette quatrième de Schumann. Toronto, Angel donne un peu moins de musique moderne qu'à Prague, un peu plus de classique et de romantique, comme cette quatrième de Schumann. On est en Amérique du Nord, rentabilité oblige. Sa nomination là-bas est encore un coup de maître de l'impresario Walter Homburger, découvreur de Glenn Gould, et qui était alors manager du Symphonique de Toronto. Concrètement, Angel n'a pas eu à fuir la Tchécoslovaquie. Il se trouvait aux États-Unis lorsqu'il a appris l'invasion de son pays et il a simplement décidé de ne pas y retourner. Le plus difficile a été de faire venir sa femme et celui de ses deux fils qui étaient restés en Tchécoslovaquie, d'autant que Anna redoutait le déracinement. Mais à Toronto, ils vivent paisiblement dans une grande maison avec jardin. Angel relève le niveau de l'orchestre. On s'en rend compte dans une répétition filmée où il parle un anglais choisi et s'adresse à l'orchestre avec beaucoup de courtoisie mais aussi d'humour. Après son départ de Tchécoslovaquie, il dirigera encore deux concerts au Festival du Printemps de Prague, ce qui porte à 766 le nombre de concerts qu'il aura dirigé en tout à la tête de la Philharmonie tchèque. Mais après, il ne revient plus, craignant bien sûr de ne pouvoir repartir. Il accepte des invitations ponctuelles. On le voit par exemple au pupitre du Concertgebouw d'Amsterdam, du Philharmonique d'Israël et du Symphonique de Vienne, avec lequel il enregistre Tchaïkovski. Témoignage de la deuxième carrière de Karel Angel comme chef invité en Occident, cette suite du Lac des Cygnes de Tchaïkovski avec le Symphonique de Vienne qui n'a pas, on se faisait la réflexion avec Marie Groux, tout à fait les couleurs qui conviennent à Angel et qui étaient si typiques de la Philharmonie tchèque. Angel ne profite pas longtemps de cette nouvelle existence. Moins de 30 ans après avoir échappé à l'extermination par les nazis, 5 ans après avoir subi le déracinement confinement, de l'exil, sa santé se dégrade à vue d'œil et il meurt d'un cancer à Toronto le 3 juillet 1973, à peine âgé de 65 ans. Sa discographie n'est pas si énorme en quantité, mais je dirais que tous ses enregistrements sont des pépites. Vous l'avez entendu, vitalité, précision, intégrité. Et alors ce mot d'ordre, se débarrasser, je le cite, de ces couches invraisemblables de mauvais goût et de grandiloquence, héritage de la conception romantique. Et quand il est invité par les radios d'Allemagne de l'Ouest, comme à Baden-Baden en 1967, il défend encore la musique contemporaine tchèque, comme celle de son camarade Iža Krejčí, avec qui il était à la radio de Prague dans les années 30, une époque de foisonnement créatif, comme aucun régime totalitaire ne peut les tolérer. La revoilà, la vitalité de Karel Anschel dans le premier mouvement de la sérénade pour orchestre d'Ija Krejci, enregistré par l'Orchestre symphonique du Sud-Westfunk, ce qui mettait fin à ce portrait d'un chef exceptionnel et d'un homme marqué par le tragique de l'histoire, mais qui n'a jamais succombé à la haine. Belle équipe cette semaine, Marie Grou à la réalisation, Lucas Derode pour mixer cette émission, Soizic Noël en est l'attaché de production, et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour tenter de comprendre pourquoi Rameau est un génie. À très vite sur France Musique.
France Musique vous offre 10 web radios thématiques. Classic Easy, la baroque, Classic Plus, opéra, concert Radio France, la jazz, musique du monde Okora, la contemporaine, musique de film, piano zen. Des œuvres dans leur intégralité, les plus grands musiciens en concert, les tubes du répertoire et d'innombrables découvertes. 10 web radios thématiques France Musique, en accès libre, à écouter sur le site et l'application Radio France.
The next stop is 42nd Street.
Il a réveillé dans les années 80 la Belle au bois dormant, le studio Disney.
42e rue, Laurent Vallière.
Alan Menken, le compositeur de La Belle et la Bête, La Petite Sirène, mais aussi de La Petite Boutique des Horreurs, célèbre ses 75 ans. Un mélodiste de génie respecté. Alors durant trois émissions de 42e rue, je vous raconte son parcours. Joyeux anniversaire Alan Menken. C'est ce dimanche à midi sur la 42e rue de France Musique et quand vous voulez en podcast.
Musique Matin de 7h à 9h, Jean-Baptiste Urbain, France Musique.
Demain nous recevons Roger Muraro, le pianiste qu'on retrouve chaque été sur France Musique, sort un nouveau disque consacré à l'un des chefs-d'œuvre de Franz Liszt, Les années de pèlerinage. Roger Muraro est notre invité demain à 8h30.
Musique Matin, une émission France Musique à retrouver sur radiofrance.fr et l'appli Radio France.
L'heure de retrouver Priscille Lafitte pour Musique et moi. Bon dimanche à l'écoute de France Musique.